Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI avec, évidemment, aujourd'hui encore un peu de Lionel Messi et les premiers mots de Léo. La star argentine a tenu sa première conférence de presse de néo-parisien en profitant de tout, en promettant, pardon, de tout faire pour tout gagner avec la meilleure équipe et les meilleurs partenaires. La Messi-mania a surpris la pulga argentine, mais elle ne fait que commencer cette Messi-mania. Quelle équipe pour rivaliser ou tenter de rivaliser avec le PSG cette saison en Ligue 1? Qui est le mieux armé au vu du premier match de championnat survenu le week-end dernier? Lille, Monaco, Lyon ou Marseille? Nous essaierons de répondre. La Bundesliga entre en jeu. Le championnat allemand démarrera en fin de semaine. Le Bayern Munich est-il encore le grand favori avec son nouvel entraîneur, le très jeune Julian Nagelsmann? Dortmund et son cyborg Haaland observent de loin ou de près, eux, les vice-champions allemands et quelqu'un d'autre qui observe sans être un cyborg, je vous le confirme, c'est David Lortolari. Bonjour David.
Très humain. Bonjour Annie, bonjour à tous.
Tout va bien ?
Tout va bien, juste à l'heure, ponctuel. C'est la Bundesliga, c'est comme ça.
Oui, et on attend ça, nous aussi. Bonjour Franck Simon.
Humainement vôtre, bonjour Annie, bonjour à tous.
Toujours ponctuel aussi, notre ami Franck, évidemment. Toujours là. Alors je suis désolée Franck, aujourd'hui, le foot africain, on est obligé de reporter un peu les sujets. Mais ne vous inquiétez pas, on
en parlera. Ça va revenir, j'espère.
Je crois qu'il y a un petit tirage au sort la semaine prochaine.
Il y en a même un ce vendredi, les Interclubs.
Oui, exactement. Mais bon, le plus important...
c'est mardi.
C'est mardi prochain et on y reviendra. Et puis, notre ami Chérif Guémour est là aussi, fidèle au rendez-vous. Bonjour Chérif.
Bonjour Annie, un peu fatigué, j'ai passé trois nuits au Bourget à attendre.
Ça va.
Avec ta doc, t'étais venu avec ta doc.
Avec tout ça. Oh là,
vous avez un autographe, vous avez une photo, vous avez quelque chose.
J'ai rien mangé, j'ai rien bu.
Je plaisante. Bon, quand on vous parlait de Messimania, ça atteint tout le monde. Laurent Salerno est à la réalisation. Sofiane Amazian m'a aidé à préparer l'émission Radio Foot. C'est parti. Everybody get ready. It's time to rock steady. It's
Bababoom time. Le club est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Parc des Princes pour cette conférence de presse historique organisée dans le cadre de la présentation officielle de Léo Messi.
Souriant, détendu, mais toujours avec une certaine retenue, Lionel Messi a fait oublier, en tout cas ce matin, ses sanglots et les larmes versées dimanche lors de ses adieux déchirants au FC Barcelone de toute sa carrière, de sa vie, de ses 21 ans de professionnel. Alors il a vécu 48 heures d'émotions opposées qui l'étonnent lui-même. Léo, surpris de l'enthousiasme aussi des supporters qui ont guetté puis salué son arrivée au Bourget et au Parc des Princes.
Je remercie tous ces supporters qui étaient dans les rues. J'étais à Barcelone quand le communiqué est paru. Les gens étaient déjà dehors alors qu'il n'y avait pas encore eu de négociation directe. Les gens sortaient comme si j'étais déjà en partance. Je leur en suis très reconnaissant. J'espère pouvoir être à la hauteur. On va bien sûr profiter de tout cela. J'espère que ce sera une année extraordinaire pour tous les supporters et pour nous sur le plan sportif. Extraordinaire para ellos
y para nosotros a nivel deportivo también. Les Parisiens qui lui donnent le sourire à Léo Messi, qui lui donnent envie de venir vivre dans la capitale. Écoutez l'enthousiasme d'un autre supporter, lui, il est rémois. Et c'est Carlos Pizarro, notre envoyé spécial au Parc des Princes ce matin, qui l'a rencontré.
C'est une ambiance exceptionnelle, ça fait plaisir de voir tous ces gens, tous ces Parisiens, tous ces supporters heureux de recevoir peut-être le meilleur joueur de tous les temps, je pense, Léo Messi. On vient de très loin même pour le voir, j'ai ma petite qui est supportrice, elle voulait assister à ce moment historique, donc on est là. On vient de près de Reims, dans la Marne. Oh, c'est un joueur exceptionnel, fantastique. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de le voir quitter Barcelone, mais d'arriver au Paris Saint-Germain en France, en Ligue 1, c'est exceptionnel. C'est à mon sens le plus grand joueur de tous les temps, vraiment. Bah, ça va peut-être donner le coup de pouce pour franchir, comme tout le monde dit, le palier pour gagner la Ligue des Champions, même si on avait déjà une belle équipe. Si Mbappé reste avec Neymar plus les autres, ça va peut-être changer la donne pour la Ligue des Champions peut-être. On va le voir à Reims puisque c'est tout près de chez nous. Donc on va le voir et on va le voir surtout au Parc des Princes surtout.
Un engouement à la hauteur certainement du footballeur d'exception qu'est Lionel Messi, qui a vécu donc une première journée déjà bien remplie toutes ces dernières heures, conférences de presse, photos, présentations, vidéos. Est-ce que cet accueil énorme vous a surpris, vous, Chérif Guémour?
Ouais, un peu quand même. Ouais,
on est au milieu de l'été, théoriquement c'est un peu la... Même s'il ne fait pas beau, mais c'est vrai, Paris est vide, on a l'impression en tout cas d'être tout seul, et puis non.
Bah, il y avait eu l'arrivée de Zlatan déjà en grande pompe sur le parvis du Trocadéro, voilà. Donc bon, c'est pas entièrement nouveau, mais
il a pas voulu, il paraît, la Tour Eiffel.
Non, mais parce que autant j'avais l'impression que Zlatan c'était un phénomène parisien, là Messi c'est toute la France. Et il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, même bon, les supporters de Marseille, de Bordeaux, de ils tirent un peu la tronche, mais en fait ils cachent mal leur satisfaction, leur étonnement, et puis le rêve aussi de voir Messi qui va jouer sur toutes les pelouses de
l'Hexagone,
de Coupe de France.
Mm-hmm. Oui, France oui, justement, on se demandait s'il irait jouer à Chambly. David Lortolari, est-ce qu'il vous paraît, ce Messi qu'on a vu aujourd'hui, comme celui du Barça, quelqu'un d'assez finalement... On voyait qu'il était heureux, il s'appuyait, dans le vrai sens du terme, sur son fils, sur sa femme, qui l'entourait depuis hier d'ailleurs. On a l'impression de retrouver quand même le même personnage, hein, humble, discret.
Oui, mais je pense qu'il y aura nécessairement, Annie, du changement pour plein de raisons. Pour aussi ce qui s'est passé au début de l'été avec sa victoire avec l'Argentine dans la Copa América. C'est quelque chose qui peut-être a été un point en moins pour lui désormais. Au Barça, il avait quand même au fil des saisons, pour pas dire sur toutes les saisons, la responsabilité énorme de porter ce club, de le guider, de le diriger, d'être décisif, de marquer les buts, de faire les passes, etc. Peut-être que là, on peut imaginer un rôle différent, voire peut-être un Messi dans une autre palette, qui sait, avec des attaquants très forts autour et peut-être devant lui aussi, donc dans un autre rôle. Moi, je suis curieux de voir une maturité accélérée, forcément du changement, ça va pas être le même environnement. Et bon, par ailleurs, je suis d'accord vraiment avec Chérif, c'est la vraie ficelle, entre guillemets, saine que j'aimerais moi tirer sur Messi, c'est pour la France, pour le championnat de France, cette attraction, cet intérêt quand même footballistique aussi, parce que pour le reste, sur ce qui est de l'économie, pour ce qui est du marketing, de la concurrence, ouais, etc., il y a des choses sans doute peut-être plus négatives à analyser.
Mmh. Et on y viendra. Bon, on va faire comme le président Nasser, on va rester sur le positif. Mais Franck Simon, Lionel Messi qui arrive comme ça et qui vient, lui-même aussi se met un peu en danger. C'est la première fois qu'il quitte un club. Alors il dit c'est la première fois, pas vraiment qu'il déménage, puisqu'il avait quitté l'Argentine, son pays, à l'âge de 12 ou 13 ans, mais évidemment, quand on est très jeune, on s'en rend moins compte. Là, il se rend compte peut-être aussi de ce qu'il est.
Il était temps. C'est quand même un adulte, donc c'est bien qu'à un moment donné, il franchisse ce cap-là. C'est un vrai cap. Après, pour revenir, parce que j'ai envie de déborder sur la question précédente, c'est que ça dénote, à mon sens, aussi une méconnaissance de la passion des Français, et notamment des Parisiens et des banlieusards parisiens, dont je fais partie, pour le football, parce qu'il était au Bourget. Moi, je suis du Blanc-Mesnil. Mmh. C'est la commune qui touche le Bourget.
Oui, on les voyait, ces jeunes. Hein. Ils disaient d'ailleurs, on
ce sont des jeunes. Vous savez, c'est aussi des motifs, on va pas rentrer dans le social et tout ça, mais c'est aussi des motifs de fierté de se dire le plus grand joueur peut-être de l'histoire du football, mais le meilleur joueur du monde du moment vient à Paris. Ils vont pouvoir essayer d'y aller tous les 15 jours, voilà, parce qu'il y a le retour aussi du public au stade.
Ça va être cher, hein, au parc.
Ça va être forcément, ça va être cher. Il y a cet aspect-là. Pour lui, ça dénote pour moi vraiment une méconnaissance de la passion, parce que c'est vrai qu'on n'est pas décrit comme un pays d'abord de connaisseurs, ni même de grands passionnés du football. Encore que je trouve que ça évolue de ces derniers temps. Ça évolue et ça va dans le sens des grandes nations, et notamment du bassin méditerranéen. Et pour le reste, bienvenue à Saint-Germain-en-Laye. J'espère que je vais le croiser en descendant chercher ma baguette de pain. Il n'est pas certain pour l'instant, il est au Royal Monceau à
comme
Paris.
Comme Sozic avant.
Ouais, mais ça fait, je le croise toujours à Saint-Germain-en-Laye. Je suis pas sûr que madame Léo Messi
Antonella
ira faire ses courses au Franprix comme moi je la fais. Mais enfin, c'est une bonne chose pour toutes les raisons qui ont été énumérées par mes camarades. Le fait que comment à l'international, la Ligue 1 va être encore perçue différemment. C'est pour ça qu'ils se rotent tous les mains. Vous avez raison. C'est-à-dire que avec Messi, ça retrouve beaucoup d'engouement et d'intérêt pour championnat. Ça, c'est important. Mais après, c'est la bouteille à la mer, Annie. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va débuter. On dit à la fin, on dit quoi, fin août, début septembre.
Lui-même a été très prudent hein, ce matin. En tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est que Messi très vite est revenu dans sa zone de confort. Alors maintenant, c'est plus celle de Barcelone, mais en tout cas, c'est parler du terrain, de son impatience, a-t-il dit tout de suite, de reprendre l'entraînement, de rechausser les crampons, de se préparer pour tout gagner ou du moins essayer avec ce nouveau club.
Je pense que c'est une équipe qui est faite pour gagner la Ligue des Champions. Au-delà des recrues importantes qui ont été faites cette saison, les dernières années, ils ont été très proches de gagner la Ligue des Champions. Je viens aider et faire de mon mieux avec énormément d'enthousiasme. Je l'ai souvent dit, mon objectif est de pouvoir à nouveau soulever la Ligue des Champions et je crois que je suis au bon endroit.
Alors là, on reconnaît hein, l'insatiable compétiteur. Hein, lui, il est pas en pré-retraite. Ça, on a très bien compris en l'écoutant aujourd'hui. Hein, Franck, vous êtes d'accord ?
Oui. J'ai vu aussi beaucoup de supporters dans les rangs des médias qui étaient présents. Ça m'a amusé, mais c'est un peu normal.
C'est pas très amusant, pourtant.
Non, mais tu m'as compris, c'est-à-dire voilà.
Admirateur peut-être. Ouais,
non. Ils redevenaient supporters et ils tombaient la veste. Ils oubliaient un petit peu ce qui est le cœur de notre métier. Mais oui, pour lui, pour Messi, de toute façon, il vient pas en pré-retraite. Le recrutement est un recrutement XXL. On a surtout dépensé de l'argent pour Achraf Hakimi, pour le coup, je crois une soixantaine de millions. Oui. Dans toutes les lignes, tu t'es renforcé et là, c'est le coup du siècle, quoi. Donc, naturellement, il peut pas envisager dans sa communication, il peut pas dire, non, on va essayer on va jouer les seconds rôles. Non. On vient pour la gagner. Ils n'ont pas été loin il y a pas si longtemps en arrière. Mm-hmm. Ouais. Avec le Bayern qui les en avait empêchés. Ouais. À l'époque. Et du coup.
Il y a exactement un an, Franck.
Ouais, il y a un an.
Donc voilà. 2020.
Ouais, un an plus tard, avec lui. Ils n'ont pas d'autre choix avec ce formidable compétiteur que d'aller la chercher, mais aussi de pas oublier en route les autres compétitions.
Non, mais ça serait bien. Évidemment. En tout cas, Nasser l'a bien dit, le président Nasser El Khelaifi, durant la conférence de presse, c'est on n'a rien gagné. Il a tout de suite essayé de calmer un peu les ardeurs parce que dehors, les supporters disaient ouais, c'est bien.
Ils ont gagné Messi quand même. C'est pas mal.
Hein. Non mais Annie, c'est important parce qu'il y a quand même quelques précédents de galactiques.
Évidemment.
Où cet empilement a été un
tu vas sortir des mauvais souvenirs, toi.
2003-2004, le Real Madrid, il y avait Figo, il y avait Beckham, il y avait Zidane et quelques autres. L'Inter Milan, l'International, qu'on appelle communément Inter Milan, a aussi pendant des années, c'était pas le même niveau évidemment, mais empilé des vedettes d'un peu partout, ça n'a pas fonctionné souvent.
Chelsea dans les années 2000.
Ah oui.
Ça a été tardif, ils ont gagné en 2012, mais pas avec la grosse équipe historique.
À la fin du cycle, finalement.
Sportivement, c'est une question. Parce que l'équipe d'Italie pour l'Euro cette année, d'autres équipes dans lesquelles il n'y avait pas forcément de vedettes ont gagné des trophées aussi et le collectif forcément n'y est plus fort que l'individu.
Peut-être, Chérif, que le premier trophée qu'il risque de gagner, ça sera pour lui tout seul et ça serait un ballon d'or dans le pays du ballon d'or, Franck.
Ah oui, hein, le ballon d'or, qu'est-ce qui va devenir le ballon d'or?
C'est jouable.
Ouais. En ayant remporté une Copa América.
Il n'aura pas le trophée des champions.
Il va être candidat au titre. Après, on va voir quand même. Là, j'ai l'impression que vraiment cet automne, ça va vraiment départager tous les candidats en lice. Hein. On va pas oublier quand même Lewandowski, Verratti.
Mais ça fait peu de temps. Tu vois, pour le coup, ça laisse peu de temps. C'est-à-dire, tu as.
Oui, mais quand même, septembre, là, ça va compter.
Oui,
là, ça va compter.
Mais ça avait déjà compté par le passé.
Ah oui, non, non.
Là, tu as deux mois où il va falloir sortir de grosses pertes.
Non, bien sûr. Après, l'objectif de Paris ne bouge jamais. Ça commence en février avec les huitièmes, match aller-retour. Quart, demi, c'est toujours
C'est tracé. Hein,
c'est toujours tracé. On connaît février, mars, avril, mai. Et là, Paris. Moi, je me méfie un peu de la pensée magique. La pensée magique qui dit que Paris a atteint le dernier carré. Ça, c'est très, très bien. C'est une énorme performance. Je ne le dirai jamais assez ces deux dernières saisons. Mais en mettant Messi par-dessus, la cerise sur le gâteau, comme on a mis la cerise Benzema sur l'équipe de France qui était déjà favorite sans lui, il y a une pensée magique qui laisse penser que Paris va gagner la Ligue des Champions cette saison. Je demande à voir.
Eh ben justement, ils ont tous été prudents, mais en tout cas, Lionel Messi a dit « J'ai fait ce choix, clairement, parce que c'était une équipe qui déjà me séduisait sur le papier. »
La verdad que una felicidad enorme, una locura, como es que recién...
Je ressens un bonheur incroyable à l'idée de pouvoir évoluer avec eux. C'est fou de pouvoir partager mon quotidien avec de si grands joueurs. Il y a eu des recrues spectaculaires en plus de l'effectif déjà en place. Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer à m'entraîner et débuter la compétition. Je vais le faire aux côtés des meilleurs et c'est beau. C'est merveilleux de vivre ce quotidien.
C'est mieux quand on joue avec ses copains ou des gens très doués, Franck.
Là, ça va pas en manquer de talent. Il a même parlé, il a été interrogé pendant la conf sur un joueur comme Verratti,
ben
par
oui,
exemple,
exactement. Hein,
où il a eu des mots super élogieux. Mmh. Il va retrouver des gens qui étaient capitaines de leurs équipes nationales il y a pas si longtemps. Je vais pas les nommer, si quand même.
Si,
Wijnaldum.
Mmh.
Là, on avait qui
Neymar.
Ramos, Sergio Ramos, qui l'a été à une époque, mais qui était, je crois,
capitaine. Marquinhos l'a été avec le Brésil.
Mmh. Neymar l'a beaucoup, été aussi. Le
meilleur joueur de l'Euro.
En tout cas, des numéros 10.
En fait, il va se retrouver entouré d'individualités exceptionnelles. Cette addition doit quand même permettre, avec le mental qui va avec...
Le mental qui va avec. Tu en parles comme si c'était fait.
Ne crois pas ça. Je suis également dans le doute.
Je suis pas sûr.
Oui, je suis pas pour l'idée d'empiler des vedettes. Ouais. Mais j'ai le sentiment que ce monsieur n'est pas arrivé au bout de sa vie sportive.
C'est un compétiteur. On est d'accord.
Ça fait combien de temps qu'il court après une Ligue des Champions?
Depuis 2015.
Six ans. Ça lui a donné de l'appétit. Ouais. Et il va bouger les mecs. Une fois qu'il va être dans le vestiaire, il va les bouger. Il va leur dire, écoutez, vous en rêvez. Et
PSG est un microclimat. Hein. Les joueurs qu'on a fait venir pour secouer, les Zlatan, Buffon,
se sont perdus.
Ouais, mais ceux-là,
ça n'a pas fait bouger le groupe plus que ça non plus.
Mmh. Je sais pas.
Il y a peut-être un autre atout.
Un microclimat, alors.
Il y a peut-être un autre atout parce que, Annie, vous vouliez parler du terrain, mais le terrain, c'est l'équipe. Plus des remplaçants éventuels, mais c'est pas de ça dont je veux parler, mais c'est aussi l'entraîneur. Et il y a une connexion quand même forte entre Messi et son entraîneur. Ouais. Sans revenir au Newell's Old Boys qu'ils ont connu tous les deux il y a bien longtemps pour les deux, mais en
ça
plus.
Ça a dû forcément aider, ça,
oui,
toi,
c'est pour
cette
ça.
Connexion.
Mais ça rajoute de la pression à Pochettino.
C'est ce que j'allais dire, ça peut faire un effet pervers aussi.
Mais oui, sur le moral, oui. Sur le mental.
Ouais, parce que jusque-là, Pochettino pouvait très bien dire l'effectif n'est pas encore au complet, il y a la pandémie, il y a des joueurs qui sont partis.
De se cacher maintenant.
Là, maintenant, tu peux plus te cacher.
En tout cas, ceux qui se cachent pas, c'est les supporters et qui ont déjà inventé quelque chose, c'est la MNM. Hein,
les M&M's. Les M&M's.
Voilà. Les M&M's. alors, ça se mange, mais ça se regarde aussi. entre, évidemment, Messi, Neymar et Mbappé. Un trio qui peut faire rêver, certes, mais bon, on sait que des trios font parfois rêver et que ça marche pas toujours. Et mes yeux vont évidemment vers l'équipe de France et le Euro, en pensant à Mbappé, Griezmann et Benzema. En tout cas, le deuxième M sera-t-il encore dans ce trio? C'est un peu la question que tout le monde se pose. Et le président Nasser Al-Khelaifi, tout à l'heure, a été fort clair. Il sera là.
Tout le monde le connaît, le futur de Kylian. Les Parisiens et les joueurs de Paris. Kylian, il est très compétitif. Il a une mentalité pour gagner. Il a dit publiquement qu'il faut un compétitif en équipe. Je pense maintenant on n'a pas plus compétitif de cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas excuse pour faire quelque chose d'autre.
Pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre.
C'est fort, hein, comme déclin.
On dirait qu'il boit du petit lait quand même, parce qu'on a l'impression qu'il se venge un peu, en référence au message indirect qu'aimait envoyer Mbappé ou sa famille, et puis cette négociation qui pour l'instant est au point mort de renouveler le contrat qui s'achève à la fin de la saison. Vous avez ce sentiment aussi
Oui et non. Mais là, comment dire, clairement, Nasser reprend les choses en main au niveau de la communication, au niveau de l'impulsion à donner pour la nouvelle saison. Mais je pense fondamentalement, depuis le début, que Mbappé n'a pas entièrement tort. Quand il voulait une équipe plus compétitive, il n'a jamais réclamé des stars. Devant, ça marchait. Hein, ils sont arrivés, ils font deux fois le dingue. C'était comment que ça s'appelle? Il était très précis. C'était un recrutement à des postes précis. Deuxièmement, il y avait l'état d'esprit, parce que lui il jugeait que par moment c'était pas assez professionnel. Ça tourne plus autour de ça. Donc là, par contre, a priori, avec quand même Hakimi, Wijnaldum, on va en latéral gauche, il y a qui? Au niveau des gardiens, il va y avoir une concurrence. Mais je pense qu'à la base, les propos de Mbappé avant le recrutement et même après, je pense qu'ils étaient fondés. Mais surtout, au-delà du recrutement, je pense qu'il parlait d'état d'esprit, qu'il ne jugeait pas ses professionnels.
Ce qui étonne un peu tout le monde, c'est que tout le monde, maintenant, aujourd'hui, met des messages sur les réseaux sociaux qui sont lus, repris et racontés. Et là, silence total de la part de Kylian Mbappé, alors que tout de suite, évidemment, Neymar, mais ça c'est son ami, mais Di Maria, tout ça c'est logique, mais même d'autres de l'effectif ont exprimé quelque chose, et lui ne dit rien. C'est suspect, David ?
Bon, on va pas surinterpréter ça, parce que c'est vrai qu'il y a cette folie, cette irrationnel.
Il est pas en vacances, il est bien là.
C'est étonnant, mais vas-y, David. Il a même repris un championnat.
Je vais faire le lien.
Et au combien, on va y venir ?
Je vais faire le lien avec une réalité du football et du sport collectif. Bon, là, effectivement, il y a de super vedettes à plein de postes. Une équipe de football, souvent, il faut du temps. Il peut falloir 3-4 saison, voire plus, pour accéder péniblement parfois, de manière plus fulgurante d'autres fois, au top. On peut aussi imaginer que malgré le talent individuel de chacun, et peut-être, Annie, pour aller dans votre sens, quelques égos, un peu d'orgueil, un peu de jalousie, on peut imaginer que ça prenne plus que 6 mois pour que cette équipe carbure, fonctionne, qu'on trouve des équilibres, que certains acceptent éventuellement d'être remplaçants plus souvent que d'autres. Shérif évoquait en passant le dossier du gardien de but. Tout va pas forcément s'emboîter tout de suite et février va arriver très vite et peut-être que Paris Saint-Germain, je parle pas du championnat de France parce que là, c'est une autre dimension que celle que vise le Paris Saint-Germain, mais peut-être qu'en Ligue des Champions, en février, on aura aucun enseignement sur la phase de poule qui aura peut-être été trop faible et on se retrouvera face à cette falaise abrupte que sont les quarts de finale, les demi-finales, sans aucune certitude. C'est possible.
Franck, Kylian Mbappé, il y a effectivement des suppositions, des questions, en tout cas autour de est-ce qu'il a envie de rester ou pas, mais il est presque devenu numéro 3 dans cette équipe.
Je suis au regret de dire que oui, ça y ressemble. Je pense que quelque part, il y a une forme de recul dans cette hiérarchie.
Dans la hiérarchie.
Voilà. C'est plus le numéro 1, ça c'est sûr.
C'est sûr.
Ah oui, voilà, ça c'est sûr.
C'est plus le numéro 1.
Ouais. Et puis, y a aussi ce lien très très fort entre Neymar et son ami, puisqu'on a bien compris
qui est réel,
qui est réel.
Surtout sur le terrain, en plus.
Oui, voilà, sur le terrain, il était. Sur le terrain, il n'y a pas besoin de revenir dessus.
En dehors.
Mais voilà, il y a eu des images assez formidables, d'ailleurs, au moment de la Copa América et de la finale. Donc, il n'y avait aucun doute là-dessus.
Ouais.
Ça doit aussi peser, ça, actuellement, dans la tête de Mbappé, en disant, du coup.
Je suis un peu trop.
Peut-être pas forcément dans ce sens-là, mais de se dire, Neymar, il est naturel avec Léo Messi. C'est ça. Moi, qu'est-ce que je vais devenir là-dedans? C'est à moi de m'imbriquer. On parlait de puzzle tout à l'heure.
Mm-hmm. Mais Franck, c'est le
jeu aussi qui veut ça. C'est
tactiquement, Messi arrive dans la zone de jeu de Mbappé. Là, on va mettre le pied dans le plat. Parce que autant Neymar, il peut jouer un peu plus en retrait. Il peut jouer plutôt côté gauche. Messi, c'est côté droit, devant et dans la surface. Donc, et on sait très bien que naturellement, Messi aimante les ballons. Alors, il les aimante. Il peut jouer en première intention. Il peut orienter aussi. Mais Mbappé, il avait trouvé la bonne carburation, les bons automatismes avec Neymar. Neymar sait très bien qu'il faut tout de suite le lancer. Mmh. Et ça, c'est parfait. Avec Messi, on ne sait pas. Il va peut-être garder un peu le ballon. Il va peut-être y aller tout seul. Il sait le faire. Hein, c'est fantastique. Hein. Et à la limite, ça peut même super bien fonctionner. Je veux dire, les fausses pistes que Mbappé peut apporter, qui peut créer des espaces pour
mais
Neymar.
Mais tu vois, Mbappé, le nouveau Timo Werner, Shérif. Nouveau Timo Werner au PSG, Mbappé, non. Il ne va pas accepter ça facilement.
Et voilà.
Un homme qui crée des espaces pour les autres, mais c'est formidable. J'adore, moi, ce rôle-là.
Mais il ne va pas le faire longtemps.
Non, mais attendez, on ne parle pas non plus de joueurs lambda. On est en train de parler de
gars
qui ont une grande intelligence. Donc franchement, ils vont se retrouver 3 pour enrichir le potentiel de cette équipe.
Un truc très important. Mbappé, il a une mentalité 100% sud-américaine. La mentalité 100%
ça tombe bien, il va être avec un Argentin et un Brésilien.
Non mais tu vas voir. Non, où ça devient pervers, comme dirait notre ami, où ça devient un peu pervers, c'est que Mbappé, il a un plan de carrière, il a des stats. Il connaît tous ses buts par cœur. il a des temps de passage.
Ça c'est plutôt du Thierry Henry alors là.
Tu vois, je veux dire, comment ouais. dirais-je, à la trêve, s'il est à 14 buts, on va en entendre parler parce que ouais. ça sera pas pour lui.
Mais il cherche quoi? Je suis d'accord, il cherche les stats.
Bah ouais,
les stats et l'excellence. La Ligue des Champions, c'est peut-être mieux d'essayer d'aller la prendre avec Neymar et Messi. Enfin, je trouve qu'il faut, c'est simplement après de,
comment en tout cas, c'est ça, ce qu'il
du
peut
pragmatisme.
Faire.
Est-ce qu'il a cette maturité?
Est-ce qu'il fait rêver les supporters?
Est-ce qu'il a cette maturité? Attention, il compte tous ses buts, toutes ses passes décisives. C'est vraiment un ordinateur, ce type-là. Rappelez-vous qui voulait jouer l'Euro et les JO.
Oui.
Non, mais ça aurait pu se faire, hein, physiquement.
Qui l'ont fait. Hein,
tu vois, ils l'ont fait dans l'équipe d'Espagne. On est d'accord.
Espagnol, voilà.
Mais ça
plutôt bien, d'ailleurs.
Ça raconte tout de l'ambition. Et je rappelle qu'à la fin de la saison, quand il était intervenu, il s'était posé clairement comme le numéro 1 du PSG. C'est plus le numéro 1. C'est tout. Est-ce qu'il a la maturité? Si là, c'est super. Ça va peut-être super marcher.
C'était des super questions autour du niveau sportif. On va essayer de s'en poser quelques-unes. C'est aussi sur cette Messi-mania qu'on voit débuter autour de Paris et autour du parc et autour de cette équipe.
Même en Afrique, il y a des maillots qui, déjà en Côte d'Ivoire, du côté
qui étaient en vente.
Vous avez vu?
J'ai vu.
C'est normal. Ouais.
En tout cas, nous, on va entendre l'acheteur du premier maillot mis en vente ce matin. À la boutique des Champs-Élysées et qu'a rencontré l'un des reporters de RFI, Louis Augry.
Il est 11h près, ça va faire 22, 26, 26 heures que j'ai pas dormi. On avait parlé genre combien de personnes allaient être là déjà. Et au final, il y avait que des personnes qui prenaient des photos, qui passaient et tout ça. Il y avait personne qui attendait vraiment. Et on a vu qu'il y avait des maillots à l'intérieur, donc on savait que celle-là, genre si on était les premiers à rentrer, on serait les premiers à avoir le maillot. C'est incroyable, franchement, je pensais pas que ça allait se passer, mais ça valait tellement le coup. Le premier maillot de Messi au PSG, genre, c'est celui-là, je vais le garder à vie. C'est ridicule de passer 10 heures comme ça dans la nuit, mais franchement, c'est Messi, c'est un rêve, et franchement, l'excitation, là le sommeil, là, à ce point-là, il n'existe plus. Enfin, il n'y a plus besoin de sommeil, il y a juste besoin de. J'ai acheté le maillot de Messi, le premier, c'est magnifique. Faut que je le fasse signer maintenant, faut que je prenne un moyen de le faire signer.
Ah oui, alors là, ça va être l'autre défi, ça va pas être simple. 158 euros, paraît-il, le maillot.
Une bagatelle.
Le numéro 30,
un peu plus de 100 000 francs CFA quand même. Hein. C'est pas donné.
C'est énormissime. Hein. Ah ouais. On se souvient, à titre d'exemple, de la folie quand Cristiano Ronaldo était arrivé à la Juventus. Pareil. Hein. Ouais. Alors ce matin, là, ils ont été en rupture de stock très vite. Et même sur le site, parce qu'on se dit dans les magasins, oui, ça rentre pas.
Mais
là,
il va
même
falloir sur attendre. Le site. Il va falloir
donc,
attendre.
Oui,
un peu.
Puis on connaît Nike hein, avec l'équipe de France et les deux étoiles. On a mis du temps avant le maillot. C'est le jour de gloire pour le Paris Saint-Germain, tout a bien tourné, David Lortolari.
Il y a deux choses. Je lisais un petit peu aussi par curiosité ce qui se disait ce matin en Allemagne, ça ne vous surprendra pas. Et il y a un confrère qui a l'habitude de faire des éditoriaux bien léchés qui a dit « ça n'est pas l'Argentin le plus célèbre à venir à Paris, c'était Piazzolla ». Avec son tango. Quelque part, ça remet un peu les choses en place.
Magnifique.
C'est le début
c'est
de l'édito. Ouais, et j'adore. Il n'a pas forcément tort. Donc ça, c'est un premier point comme ça, en forme de un petit peu de pirouette. Mais le deuxième point.
Le premier, c'était Carlos Bianchi dans l'effectif
du
Paris Saint-Germain.
J'ai cru que t'allais faire la machine, tu sais, la caisse enregistreuse, tu vois. T'allais parler de ça.
Mais Gardel est d'origine française.
Hein. Après,
dit-on.
Moi, je suis comme vous, et Chérif le disait d'emblée.
Toulousain, mais c'est pas sûr.
Chérif le disait d'emblée dans l'émission, il y a forcément aussi un regard d'enfant. Et de la part des confrères, quelque part, ça peut aussi se comprendre, ce regard-là. Moi, je suis malheureusement quand même toujours perturbé par... Alors, en Allemagne, on a vécu des décennies de distorsion, entre guillemets, saine de concurrence avec le Bayern qui ramassait tout, mais qui construisait petit à petit son empire économique. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui, si vous parlez de la Ligue 1, il y a le Paris Saint-Germain et le reste. Si vous parlez de la Ligue des Champions, il y a presque Paris Saint-Germain et le reste aussi. Ça, il va quand même falloir qu'on le répète à un moment donné.
Bah non, c'est justement le thème de maintenant. En tout cas, signalons pour ce qui est de la réussite quand même de ce club, parce que c'est vrai, Vincent Labrune a salué le travail des 10 ans de ce club, le président de la Ligue professionnelle. Mais en 10 ans, et ça c'est un terme, mais on y reviendra, une des plus grandes franchises du sport mondial.
Alors, c'est parfaitement vrai. C'est une grande réussite.
Mais on se croirait aux États-Unis pratiquement.
C'est une vraie grande réussite.
C'est le mot.
La visibilité, le nom du PSG.
Ouais. D'abonnés en plus sur Instagram en quelques heures, jours, là, depuis qu'on sait. Et 1 million de maillots vendus déjà l'année dernière, donc on imagine pour cette saison. Bon, en tout cas, le sujet Messi, chers auditeurs, vous n'y échapperez pas. Ça sera demain dans Appel sur l'actualité avec Chantal Leroux qui attendra vos questions, vos remarques à propos du transfert de Léo Messi. Et nous attendrons à partir de demain vos cartons pour le Café des Sports qui reprend vendredi à la radio et en télé. Mais nous parlions de la Ligue 1, et bien justement, on va se poser une question. Saine, à vous écouter, David Lortolari, question saine. Quel rival pour le PSG cette saison ?
récupération de Perez, Pape Gay avec Dimitri Payet. Payet dans la surface, Payet, Dimitri Payet qui envoie le peuple marseillais au 7ème ciel.
Il mase au bout du bout, au bout du bout.
Le vice-champion de France, Lille, va sûrement, le vice-champion de France, pardon, de la saison dernière, c'est-à-dire le PSG, va peut-être sans doute remporter le championnat. Mais c'est ce qu'on dit à chaque fois en début de saison depuis que le Qatar est arrivé. Et il y a eu des années
vous
où ça ne s'est pas passé, justement.
C'est pas risqué. Hein,
Lille, l'année dernière, il y a eu Lille, il y a eu Monaco, il y avait eu Lille, il y avait eu Montpellier, quand même. Alors à l'issue de la première journée, en tout cas, si on regarde le classement, le PSG, vainqueur à 3, 2, à 1, il est seulement quatrième. Alors que c'était chez un promu,
c'est grave.
Et c'est un autre promu. Mais non,
on est en Ligue Europa en fin de saison.
Ils ont tous le même nom.
Clairement, en Ligue des Champions.
On en plaisante, mais c'est l'autre promu, non ? Mais il faut le dire parce que ça leur arrivera peut-être pas beaucoup à Clermont Foot. Ils sont premiers pour l'instant, n'est-ce pas ?
Ah ouais, franchement, c'est bien pour eux.
En tout cas, vous l'avez entendu, l'OM a fini par gagner son match grâce à Dimitri Payet. C'était à Montpellier 3-2, match spectaculaire, mais aussi spectaculaire que Sampaoli, je pense, autre Argentin. Le champion sortant, lui, s'est imposé avec son nouvel entraîneur, Jocelyn Gourvennec, et grâce à son buteur turc, Burak Yılmaz. Ils ont arraché le match nul, en fait.
Ils ne sont pas imposés.
Ils ont arraché le match nul.
Très mal,
ils ont eu du mal. Là, c'était à la 95e ou je ne sais pas combien.
17e.
Bref, Monaco, on va en dire un mot juste après, mais entre le LOSC, l'OM, l'OL, quel est le club qui, selon vous, ou un autre, Franck, qui peut tenir la dragée haute au PSG ? Vous avez le droit de dire aucun.
Non, tenir la dragée haute, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire terminer à 5 points, 10 points, 15 points, plus, parce que voilà, ils sont clairement large favoris. J'ai envie de croire quand même que le LOSC a les moyens, tant qu'ils ne perdent pas d'autres cadres importants, de leur contester justement ce leadership en France dans notre championnat.
En tout cas, ils l'ont fait dès le premier match,
qui
était le trophée des champions à Tel Aviv.
Bon, après, c'était pas les mêmes équipes. C'est pas la même équipe du Paris Saint-Germain. Sont pas les tauliers. Hein. Même alors, si c'était pas une équipe B, comme je l'ai entendu dire, parce que il y avait quand même beaucoup de joueurs qui seront dans la rotation. Donc, faut arrêter. C'était pas des Marie-Louise. C'était pas des gars de 18 ans. Il y en avait, mais il y avait beaucoup de. Donc, du coup, plutôt le LOSC. Après, on me dit Marseille. Je demande à voir.
Chérif Guémour.
Déjà, une bonne note, c'est qu'on a vu du spectacle, donc ça c'est rassurant. On voit que
la première journée.
Oui. On a vu des équipes qui jouent bien. J'ai l'impression qu'il y a un allant, il y a un enthousiasme chez Marseille, avec Sampaoli qui les pousse. On a retrouvé un peu les grandes heures de l'OM de Marcelo Bielsa. On va voir sur la durée. Tactiquement, ça m'a l'air bon. Alors, concurrencer directement Paris Saint-Germain, j'y crois pas.
Mais est-ce que, par exemple, on aura un classico avec Messi cette fois-ci à l'intérieur ?
On risque d'avoir un classico intéressant. Évidemment, Paris devrait gagner les deux, mais on risque d'avoir vraiment là, avec du répondant en face. Ensuite, j'ai observé un peu Lyon. Je vois pas de grandes individualités. Je pense que Bosch fera du très bon boulot, mais Memphis Depay est parti, c'était quand même leur leader d'attaque, ils n'en ont pas, et je n'ai pas vu Aouar encore prendre l'équipe sur ses épaules. Lille, interrogation, je ne sais pas, je suis comme toi Franck.
Donc finalement, qui il n'y en a pas un qui se détache, c'est ça ?
Non, puis j'ai vu Monaco, j'ai peur que, comment dire, les méthodes de Kovacs, c'est-à-dire toujours son turnover au bout d'une heure de jeu, finissent par lasser les joueurs. Et c'est une équipe qui manque un peu de fantaisie. Elle a très très bien joué la saison dernière. Je suis relativement inquiet contre le Shakhtar Donetsk en barrage.
Alors ils sont en barrage de la Ligue des Champions. Hier, ils ont réussi à battre le Slavia Prague.
Mais, ma conclusion,
ils sont qualifiés, mais bon, effectivement.
C'est que c'est des belles équipes. Et je ne parle pas de Lens, qui va sûrement confirmer un peu leur belle saison l'année dernière. Il a clairement fourni du jeu. J'étais aussi surpris par Troyes, qui a bien résisté contre Paris. On risque d'avoir du jeu cette année. Je pense que ça va être insuffisant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il va finir deuxième, troisième. Là, il va avoir une vraie course à l'échalote. Et je pense
Donc, tu as répondu. C'est le PSG sans rival, en fait. Quelque part.
Ah, je pense.
Ouais.
Il y a un épouvantail.
Deux fois la même erreur.
David Lantolari.
Il y a un épouvantail quand même, Annie, avec peut-être, espérons, du public qui restera dans les stades au fil des mois, on l'espère. Sheriff parlait d'allant, d'enthousiasme. C'est épouvantail, c'est quand même Marseille. Il y a eu pas mal de changements.
Je l'ai dit.
On peut, oui, mais je pense que c'est une équipe qui peut apporter quelque chose, qui peut proposer aussi effectivement une vraie opposition comme ça sur des matchs. Et puis pour moi, le leader naturel derrière PSG qui conclassera tout sa part, c'est quand même Monaco, parce que sur la suite de ce qu'a fait Kovac la saison dernière, avec en plus, pardon, hein, du prisme germanique, mais ce super gardien qu'ils ont recruté, ça peut gagner quelques points par-ci, par-là. Mais j'ai ce souci que je partage avec Sheriff, que Kovac, au fil du temps, essore quand même un peu ses équipes. On l'avait vu avec Francfort. On l'avait vu avec le Bayern, mais il y avait des stars à gérer. On va voir si avec Monaco, il parvient à maintenir ce niveau d'exigence. Si tel est le cas, Marseille-Monaco, deux beaux adversaires pour moi, pour le Paris Saint-Germain.
Monaco, c'est fort, attention. Hein, c'est,
ah oui, mais, hier soir, quand même, au stade Louis II et tout, on les a vus au moins jouer un match vraiment, en tout cas pour de vrai, parce que jusqu'à présent, et il y avait eu le match aller. C'est vrai que c'est une équipe, l'année dernière, qui a un peu échoué au dernier moment. Quoi.
Oui, parce que c'était venait d'arriver, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait comment ça s'appelle, le retour de Golovin. Enfin, il y avait vraiment, c'était une équipe.
Là,
un
il
peu
a quand même Volant, Ben Yedder, Golovin, il y a ce petit Sofiane Diop là, qu'on vient de voir.
Ils sont tous là. Hein, ils sont tous là, donc c'est une équipe intéressante. Mais
il y a beaucoup de monde. Hein. Il a un effectif triple XL.
Et c'est toujours, il fonctionne toujours aux 5 changements à l'heure de jeu. Moi, je vois des joueurs qui sortent qui ne sont pas toujours très, très contents. Ah, et moi, à mon avis, ce serait bien de faire jouer sur 10 matchs.
Les limites de ce système.
Voilà, une équipe type qui joue 90 minutes pendant 10 matchs. Moi, quand je vois Ben Yedder qui sort, il n'est pas content. Golovin, on ne sait pas s'il a un statut plein et entier. Alors que moi, j'ai l'impression que cette équipe, maintenant, elle a besoin de jouer beaucoup, beaucoup ensemble pour faire des étincelles, je pense.
Voilà pour ce qui est donc des éventuels concurrents. Et il y aura la deuxième journée de Ligue 1 en fin de semaine. Donc, on aura peut-être quelques enseignements sur les autres. Messi ne débutera pas, hein, on ne sait pas encore trop. Mais évidemment, ce ne sera pas dès ce week-end. Mais allons vers la Bundesliga qui, elle, débute ce week-end. Et je pense que David Lortolari a beaucoup de choses à nous expliquer. Vous êtes dans l'ambiance là, David, tout de suite là.
Ah ben là, c'est ça. Mais c'est ça. Il y a les radios, les télés, il y a vraiment cette espèce de fête permanente avec ce championnat en Allemagne. Ils adorent ça.
Alors reprise avec d'entrée, eh bien le champion sortant, le Bayern, attendu par le Borussia Mönchengladbach, hein, là où jouent notamment Thuram et Pléa. Alors on a envie de savoir comment le jeune entraîneur choisi pour succéder à Hansi Flick, qui est parti prendre la sélection, Julian Nagelsmann. Venu du RB Leipzig, qu'on avait beaucoup aimé l'année dernière avec cette équipe où ils sont allés très loin en Ligue des Champions. Est-ce que il y a déjà un changement visible dans cette équipe pour vous, David Lortolari ?
Il y a d'abord, si on prend les choses dans l'ordre, Annie, je veux dire chronologique, il y a d'abord eu un changement instantané en dehors de l'équipe, je veux dire l'environnement. Le premier jour, la reprise de l'entraînement, Nagelsmann avec ses adjoints, l'entraînement 1h30, 1h40. Bon, très exigeant avec les jeunes, replacez-vous, jouez ceci, jouez cela, diagonale, oblique, machin. Une vraie première journée de travail. Et puis à la fin, je m'en vais avec les nombreux journalistes qui étaient là, beaucoup de quasiment exclusivement des journalistes allemands d'ailleurs. Parce que c'est une curiosité quand même, surtout en Allemagne avant tout, cette arrivée de Nagelsmann au Bayern. Je m'en vais, je sors mon téléphone de la poche, là, dans la paisible rue qui borde le centre d'entraînement. Je branche par curiosité Instagram, le réseau social que vous avez cité tout à l'heure vis-à-vis de Paris Saint-Germain et Messi. Qu'est-ce que je vois ? Nagelsmann en direct discuter avec les supporters après l'entraînement, devant le terrain d'entraînement. Tout cela, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, était bien scénarisé, bien intégré par le Bayern. Ils avaient installé un petit matériel avec un trépied, avec un support pour le téléphone. Et Nagelsmann, tout sourire, communiquait directement avec les supporters. Il faisait connaissance. Et il répondait aux questions qui apparaissaient sur l'écran. Alors, toujours les mêmes questions. Est-ce que Kimmich va jouer arrière droit? Bon, enfin. Et donc, on se dit que peut-être au fil du temps, il va être lassé lui aussi de cette communication.
Mais c'était le premier jour, en tout cas.
Oui, c'était le premier jour. Mais il avait dans le passé déjà. lorsqu'il était à Hoffenheim, un contact direct avec les gens, entre guillemets, via les réseaux sociaux. Il avait ensuite un peu calmé le jeu. Et là, on voit que, avec cet enthousiasme d'enfant qu'il a avec son Bayern, quand même, il est de là-bas aussi, c'est ça qu'il faut rappeler.
Oui, et il a 34 ans, hein, c'est
34
ça.
Ans. Il a remis un peu cette modernité au centre du jeu. Donc ça, c'était le premier constat. Et c'est surprenant parce que on n'imagine pas Trapattoni faire ça. On n'imagine pas Ancelotti faire ça. On n'imagine pas Hitzfeld faire ça.
Trapattoni, il a essayé, ça avait été comique. Hein.
Bah oui, non, mais c'est, donc au Bayern, c'était cette espèce de vieille tradition. Et là, il y a quand même un souffle nouveau. Et après, alors dans l'équipe, pour terminer sur ce monologue, dans l'équipe, forcément qu'il y a aussi de la nouveauté parce que il va y avoir de la remise en question. Il y a de sa part un respect des anciens comme Thomas Müller, mais il va y avoir aussi la volonté de mettre dans le grand bain les Tanguy Kouassi, les jeunes.
Qui restera pas.
Par exemple, oui, mais voilà, après il y a une forte concurrence, mais oui, Annie, pour répondre à la question, Nagelsmann apporte de la nouveauté et va forcément
secouer le Bayern.
Oui, et se mettre un peu à nu, pour prendre un peu des risques aussi avec cette équipe.
David, il y a un changement considérable, de toute façon, à la présidence. C'est la vieille présidence Rummenigge. C'est maintenant, c'est Kahn.
Remplacé par Oliver Kahn, oui.
C'est Oliver Kahn, c'est notre génération, une autre mentalité. On a changé d'époque. On a changé d'époque au Bayern.
Ouais, c'est peut-être, pour résumer très rapidement, Annie, de ce qu'on ressent de la communication d'Oliver Kahn pour l'instant, c'est quand même, vis-à-vis de l'extérieur, j'entends, hein, je ne parle pas en interne, ça semble quand même assez froid, assez mécanique, assez efficace, économiquement performant, on va dire. Non, pas plus.
Mais il va peut-être s'améliorer, lui aussi.
J'avais une question, Annie, pour David. Moi, je l'imagine toujours avec un playbook comme au foot américain, avec les schémas et tout ça, parce que ça reste quand même un scientifique et un chercheur. Oui. Est-ce qu'il les a équipés, ces joueurs, justement, pour ça? Ils sont au courant qu'il va falloir potasser avant les séances et après?
Je pense que ça va justement être la grande question, Franck. C'est qu'on peut imaginer que tous les jeunes qui sont arrivés ou qu'il veut faire monter du centre de formation ou bien ceux qui ont signé des contrats, il va les emmener avec lui sur ce terrain. Les plus anciens, je sais pas, peut-être ça va les amuser, peut-être d'autres vont grogner, ça on ne sait pas encore.
Parce que ça c'est quand même une réalité, on le sait, comment ils travaillent, on connaît.
Nagelsmann, hein.
Oui, c'est il a cette réputation
un côté
et ça.
Un peu scientifique.
Ouais, mais non, ça,
il y a
ça
il y a une rupture tactique. Hein,
c'est
là,
ça.
Oui.
C'est là où je voulais en venir.
Plus vite. Oui. La récupération plus haute, il faut être toujours en mouvement. Avec Flick, c'était bien, c'était plutôt un jeu de possession.
Mais je veux dire, ça au aussi, c'est efforts, la rupture. C'est une grande rupture.
Mmh. Au niveau des efforts.
Parce que c'était l'héritage
en mouvement.
De Pep Guardiola, ouais. Lointain.
Mais attention, il ne déboule pas dans l'équipe en voulant tout révolutionner. Il a, en tout cas, c'est une intelligence diplomatique au départ.
Ouais, je pense qu'il aurait tort.
Vas-y, vis-à-vis de la presse, il a dit « Oui, je vais continuer à innover sur mes systèmes, mais je vais aussi être capable de considérer que j'arrive au Bayern, qu'il y a des stars qui sont installées et que donc je vais aussi revenir à des systèmes plus classiques par moment. » Il va essayer, c'est peut-être un risque là aussi sportif de mettre en place deux, trois systèmes.
Ouais, oui, c'est ça. Il y a une identité qui fonctionne.
Mais il le sait.
Ouais, et puis Pep Guardiola,
non, mais c'est intéressant,
quand il a voulu modifier
ça.
C'est peut-être pas, et puis peut-être que c'est pas forcément pour cette saison.
Ouais,
c'est effectivement,
ça
va être, comme tu le disais, les clubs, les identités, elles se façonnent sur plusieurs saisons. Ouais. Ça peut être une saison de transition.
C'est pour ça aussi qu'on le fait signer 5 ans, Annie. Ça, c'est un inédit. C'est un inédit, 5 ans pour un entraîneur.
En tout cas, Oliver Kahn, pour ce qui est de lui, il a dit que Franck Ribéry ne reviendrait pas, en tout cas sur le terrain. Ça a été assez clair.
Il y a une folle rumeur, Annie, parce qu'il s'est entraîné un petit peu, il s'est entraîné avec Jérôme Boateng, notamment.
Et Sabitzer, alors ça se fait, ça va se faire
Ça peut.
Ah, c'est pas mal, Pas mal du tout.
Ah ouais, non, mais
le challenger, là-bas, en Allemagne, c'est souvent le Borussia Dortmund, bien sûr. Alors, toujours, pour l'instant, avec son Erling Haaland, il va rester Haaland, vraisemblablement ?
Oui, c'est le souhait. Après, on voit bien que... Alors, ils ont un avantage, Dortmund, c'est que Lewandowski et le Bayern, c'est on va continuer.
Ben oui.
Même si les années passent, on va continuer. Donc, on ne peut pas imaginer, dans le football d'aujourd'hui, que Haaland et Lewandowski jouent dans la même équipe au même moment.
Enfin, c'est en Allemagne, parce qu'en France, c'est possible.
Mais non. Ce serait quoi je pose des questions, moi j'hésite entre Dortmund et Leipzig en concurrent direct.
C'était la question d'Adi.
Avec un nouvel entraîneur, Leipzig, puisqu'on leur a pris le leur. Oui, il s'appelle Jesse Marsch et qui vient en fait de Salzbourg, c'est-à-dire la même filiale.
Oui, c'est la filiale RB. Mmh. Ouais.
On va écarter Wolfsburg tout de suite, parce que c'est une boutade, mais parce que Marc Van Bommel, ça va pas du tout avec Wolfsburg. Et,
pourquoi ça va pas du tout, ça m'intéresse.
Pour être simple, il y a eu un match là, de coupe, et ils ont fait entrer 6 joueurs au lieu de 5. Enfin, 6 remplaçants au lieu de 5.
On s'est demandé tout à l'heure, en préparant l'émission, parce que Alejandro Valente, ça ne lui avait pas échappé, et on s'est dit, mais est-ce que c'est pas la faute de l'arbitre ?
Alors, responsabilité partagée, et ça risque de se juger de manière
c'est
juridique.
C'est en Coupe d'Allemagne contre coupe un club de 4ème division.
Coupe d'Allemagne, premier tour. Sur Van Bommel.
Mais Van Bommel, le problème, c'est que c'est l'équipe qui fait les remplacements qui est responsable au premier chef.
D'accord.
Sauf qu'ils ont demandé. Oui, ben justement, ces adjoints ont demandé au quatrième arbitre s'il pouvait faire ce remplacement et ça a été validé. Donc il y aura peut-être une responsabilité partagée qui pourrait sauver Wolfsburg. Mais parce qu'ils peuvent perdre sur tapis vert et se faire éliminer d'entrée. Les journaux en Allemagne ont repris les précédents. Il y a quelques précédents. Ça s'est jamais bien passé pour les entraîneurs. C'est un mauvais point pour lui d'emblée. Mais vous n'auriez pas Wolfsburg parmi les candidats au titre.
Non,
donc on va écarter cette hypothèse. C'est Leipzig, Annie, qui s'est le plus renforcé. 200 millions d'euros d'investissement. C'est énorme. Et Leipzig va avoir de la dynamique, va avoir de la jeunesse, va avoir un entraîneur qui a montré de belles choses déjà pardon pour cette condescendance, mais dans la division inférieure en première division autrichienne, division inférieure par rapport à la première division allemande. C'est Leipzig qui est le principal candidat. Pourquoi ? Parce que sur la longueur d'une saison, ni même le Bayern, ni Dortmund non plus, n'ont à mon sens, et Lothar Matthäus qui s'est exprimé et qui fait toujours ses pronostics avant saison est d'accord avec ça, n'ont le banc, n'ont la longueur d'effectifs actuellement pour rivaliser. Donc le rival principal, peut-être même pour le titre, et ça serait une belle surprise, mais c'est pour moi possible, c'est RB Leipzig.
Je le pense.
C'est RB Leipzig. Mais alors attention, il faut préciser
vous
tout de suite
donc
à nos auditeurs.
D'accord avec Lothar Matthäus, c'est pas mal.
C'est une grande gueule aussi. Il joue le jeu, on lui demande ses pronostics. Pour nos auditeurs quand même, sensibiliser à quelque chose. Ça va encore possiblement bouger d'ici la fin août. Annie, on reprend le championnat. Il peut y avoir quelques gros transferts. Même si les clubs sont prudents économiquement, notre pronostic d'aujourd'hui est un peu osé. Mais ce qu'il faut retenir, Annie, à mon avis, c'est que le Bayern qui va viser son 10e, et ça sera forcément une carotte pour le club,
son
pour les joueurs
titre consécutif parce qu'ils en sont à plus de 30.
Ça peut secouer parce que Nagelsmann débarque dans un terrain inconnu, n'a jamais géré toutes ses vedettes. Le Bayern peut aussi se lasser un petit peu de sa domination. Il va y avoir la Ligue des Champions à jouer à côté et en championnat il y a un vrai rival,
tu n'as pas un trophée aussi là
la
Super Coupe d'Allemagne la semaine prochaine.
Oui, complètement.
Ça, je pense que ça pourrait donner aussi déjà une première
l'affiche. Ça sera entre Bayern et Dortmund.
Vainqueur de la coupe contre vainqueur du championnat.
C'est pas mal quand même. Tu peux déjà avoir quelques petites certitudes ou non ?
Des indications.
Oui, des indications.
Et Dortmund a de l'appétit aussi, évidemment. Le président qui en a profité, vous l'avez vu aussi dans la presse française, pour mettre un taquet au Paris Saint-Germain en disant que cette concurrence était déloyale. Évidemment qu'ils ont aussi l'ambition. On a les trois grands là. De mon point de vue, le Bayern peut trembler et aura peut-être des soucis si Nagelsmann a du mal à gérer tout son vestiaire.
Juste des nouvelles des Français de l'effectif du Bayern qu'on a vu blessés pendant l'Euro, indéniablement. Hernandez, Pavard, Coman, alors il n'était pas blessé, mais on l'a. Bon, et Tolisso qui serait sans doute en partance. Mais comment ils vont, ceux qui étaient un peu. Entre Pavard qui avait pris son coup et Hernandez qui avait un problème de genou.
Il y a un bon point pour les offensifs, c'est qu'il y a actuellement 3 ailiers pour 2 places. Donc pour Kingsley Coman, ça peut être quand même une vraie chance de jouer régulièrement et de définitivement peut-être s'imposer s'il est tranquille physiquement. Et puis après, il y a un deuxième point intéressant pour ces Français, c'est que Nagelsmann va donner leur chance à tous les joueurs. Donc ça, c'est pas une formule creuse, c'est la réalité avec un entraîneur comme ça. Donc tout le monde peut avoir sa chance. Et d'ailleurs, au premier entraînement, Tanguy Kouassi et Dayot Upamecano étaient sollicités. Ils étaient remis en place de manière... vraiment, comment dire, franche, et ça veut dire qu'ils comptent sur eux et qu'on peut imaginer qu'ils jouent enfin un rôle, pour le premier cité en tout cas, dans cette équipe.
C'est un secteur crucial, la défense centrale du Bayern.
Upamecano va être sacrément
Challengé.
Voilà,
c'est ça.
Oui, c'est
intéressant. Donc Hernandez, Pavard, ça va ?
les deux sont attendus comme devant passer encore un palier, c'est-à-dire prendre des responsabilités dans le club, parce que plus de Boateng, plus d'Hummels, parce qu'il n'y est plus depuis un moment, et les Français vont avoir un rôle à jouer à Nice.
Et on y reviendra donc, David Lortolari, hein, vous viendrez nous raconter tout ça, évidemment. Merci beaucoup, messieurs, Chérif et Franck, aussi d'avoir participé à ce Radio Foot. Hein. C'est la semaine de reprise, on retrouve tout le monde, mais on est là et on est parti pour une saison. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.